Oh non, monsieur, avec Jupiter et Uranus en Sagittaire, je ne vois aucun cambriolage chez vous dans un avenir proche.
Vous êtes sûr, hein?
Oh, bah tout à fait sûr. Vous savez, les cartes ne mentent jamais, monsieur.
Pour partir tranquille, confiez plutôt votre maison aux professionnels Vérissure. Vérissure par Securitas Direct, numéro 1 européen des alarmes télésurveillées.
Par contre, je vois quelqu'un devant chez vous avec un pied de biche en ce moment.
Pardon? Pour une installation gratuite, appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verissure.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
On va célébrer dans quelques mois le centenaire de la théorie de la relativité générale. Comme souvent, Franck Ferrand est un peu en avance sur la commémoration. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. C'est aussi notre rôle de vous mettre au fait de ce qui demain, très vite, va faire la matière des conversations. Alors à l'occurrence, je me suis dit que l'évocation d'Albert Einstein serait surtout un beau prétexte à entendre Alain Siroux nous parler de science. Et ça, vous savez que c'est toujours un bonheur.
C'est tout à fait vrai. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Astrid sur les origines du Conseil des ministres.
Et je vous dirai pourquoi ce Conseil des ministres se tient le mercredi. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec l'une des plus grandes figures du XXe siècle, Monsieur Einstein, que je m'en voudrais de faire attendre.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je me souviens qu'à la fin du XXe siècle, on était en décembre 1999, en fait d'ailleurs le XXe siècle s'est terminé en décembre 2000, mais enfin, bon, passons ce détail, tout le monde attendait la une du Time Magazine pour savoir quelle personnalité serait désignée par la presse en général et par Time en particulier comme la personnalité du siècle. Eh bien, sans grande surprise, c'est le visage d'Albert Einstein qui est apparu sur cette couverture. Il a été considéré quasiment unanimement comme le grand homme du XXe siècle. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut être discuté? Ça fait partie des questions que je poserai tout à l'heure à Alain Siroux, bien entendu. « Vous êtes célèbre, disait Einstein à Chaplin, à Charlie Chaplin, il lui disait « Vous êtes célèbre parce que tout le monde vous comprend ». Et moi, je le suis parce que personne ne me comprend. Et c'est assez vrai qu'il est difficile parfois de comprendre, bien entendu, les théories d'Albert Einstein, surtout lorsqu'on veut les exprimer de manière très, très précise. Il faut peut-être se mettre dans le contexte où tout ça est apparu. On est au début du XXe siècle, la physique traverse une crise. À cette époque-là, il y a deux théories qui coexistent. La mécanique, c'est la science du mouvement des objets matériels, vous savez. Et puis, l'électromagnétique ou l'électromagnétisme, ça c'est la science qui notamment s'intéresse à la lumière. Alors, bon, la mécanique, on la connaît, elle repose sur le principe de la relativité du mouvement énoncé par Galilée, reprise par Newton. Je vous donne l'exemple d'un avion. En cabine, on ne peut pas savoir en observant ce qui se passe uniquement à l'intérieur. Si vous n'avez pas de hublot dans le cockpit, vous ne pouvez pas savoir si l'appareil est en mouvement. On est immobile par rapport aux parois de l'appareil, mais on est en mouvement par rapport à la Terre, qui elle-même est en mouvement par rapport au Soleil, qui lui-même est en mouvement, etc., etc. Vous voyez cette relativité du mouvement. Bon. La théorie de la lumière, qui a été élaborée dans les années 1850 par le physicien britannique Maxwell, décrit en termes mathématiques la lumière comme une onde, comme quelque chose qui se propage de proche en proche, comme les rides à la surface d'une mare dans laquelle on aurait lancé un caillou, par exemple. Cette lumière, elle se propage dans l'éther, sans doute incolore, disait Maxwell, probablement sans poids. L'éther serait une sorte d'immobilité absolue. Et là, on est en totale contradiction avec ce que je viens de vous dire sur la relativité du mouvement. Vous voyez bien qu'il y a un problème. On n'est pas dans la même théorie pour décrire un univers qui, lui, évidemment, est le même. Donc, il va falloir qu'on se mette d'accord d'une certaine manière. Il y a une contradiction, il y a un paradoxe. La matière est faite d'atomes, des petits grains de matière, si vous voulez. Et entre ces atomes, il y a des trous qui rendent la matière discontinue. Problème, Maxwell a montré que la lumière peut être décrite comme quelque chose de vraiment continu. Alors, évidemment, il va falloir que quelqu'un arrive pour résoudre ces contradictions. Ce quelqu'un, vous avez bien compris que ça va être Albert Einstein qui, en 1905, publie 6 articles dans la revue allemande Annalen der Physik, les Annales de la Physique. Ces articles, évidemment, sont assez révolutionnaires. Il est tout jeune, Albert Einstein. Enfin, quand je dis il est tout jeune, il a 26 ans à l'époque, puisqu'il était né en 1879. Tiens, un petit retour biographique pour ne pas perdre en chemin les littéraires dans mon genre et qui se disent « Oh là là, c'est une mission complètement scientifique ». Il était né à Ulm. Vous savez, Ulm, la ville de la merveilleuse cathédrale en Allemagne. Ses parents, Hermann Einstein, étaient des industriels, on va dire. Son père possédait une usine électrochimique. Sa mère, Pauline Koch, est une dame très instruite. Par ailleurs, une artiste. Hein, elle aime les arts, elle encourage les arts, elle joue du piano, etc. Il y a également une petite sœur qui s'appelle Maya. Albert commence le violon à l'âge de 6 ans. On est dans une famille assez ouverte, notamment sur un plan religieux. Les Einstein sont juifs, mais on peut pas dire qu'ils soient très pratiquants. Ils ont une certaine ouverture d'esprit, disons, et surtout, ils encouragent la connaissance. Ça, c'est intéressant. Le premier rapport que va avoir le petit Albert avec la physique, c'est vraiment très tôt, quand il a 5 ans, et que son père lui offre une boussole. Il est impressionné, mais on a tous été, un jour ou l'autre, par le comportement de l'aiguille. Cette aiguille qui bouge quand il se déplace, il a l'impression d'un miracle, il veut comprendre ça. Vous voyez d'où ça naît finalement la recherche scientifique bien souvent? Ça naît d'une surprise, d'une incompréhension, d'une volonté de comprendre aussi. Son oncle, qui s'appelle César Cor, qui est ingénieur, lui va lui faire découvrir les mathématiques. Il est toujours très bon en sciences, Einstein. À 10 ans, il quitte l'école primaire pour le Luitpold Gymnasium de Munich, dont il est renvoyé. D'ailleurs, il dit que c'est une décision du prof de grec qui n'avait pas de raison apparente. Enfin, ça, c'est la version d'Einstein, bien entendu. Ses parents s'installent en Italie en 1894. Lui est en Suisse en 95. Il va rater l'examen d'entrée au Polytechnicum de Zurich. Hein, ça, c'est assez célèbre, cette espèce d'incapacité d'Einstein à entrer à l'école polytechnique de Zurich. Il va passer un an à l'école cantonale d'Arau en Suisse, toujours. Où les anciens, vous savez, c'est une école très intéressante, c'est une école expérimentale où les élèves sont incités à penser, à travailler par eux-mêmes. Ça préfigure un peu ce que l'on vit plus ou moins bien aujourd'hui. Bref, il habite chez un de ses professeurs qui s'appelle Jost Winteler, et là il va tomber amoureux de la jeune fille de la famille, hein, Marie Winteler. La sœur d'Einstein, Maya, raconte qu'Albert considère qu'il s'agit d'une des plus heureuses périodes, peut-être la plus heureuse période de sa vie. Il va finalement entrer au Polytechnicum en 96. Il rencontre d'ailleurs là sa femme, Mileva Maric. Il faudra qu'on en parle tout à l'heure avec Alain Siroux de sa femme, parce qu'elle a joué un rôle important. Il l'a épousée à Berne, après la mort de son père qui était opposé. Là, il y a un épisode assez méconnu. En 1902, ils ont une petite fille qui s'appelle Liesel. Or, on n'a aucune trace de cette petite fille, puisqu'aucun certificat de naissance ou de décès n'a été retrouvé. Et puis ensuite, donc, il aura deux fils, connus ceux-là, Hans Albert et Edward, appelés Ted par ses parents, un enfant tendre, gentil, mais avec des troubles de comportement qui vont apparaître et qui finiront par le conduire à l'hôpital psychiatrique, le malheureux. On peut dire d'une façon générale qu'Einstein est assez détaché de la vie familiale, c'est même le moins qu'on puisse dire. Alors, il cherche un poste universitaire, il n'a pas de recommandation, il a du mal à trouver un emploi. C'est l'époque où il demande la nationalité suisse et un de ses amis va l'aider à trouver un emploi d'expert à l'Office fédéral des brevets de Berne. On est en 1902, il réalise un premier audit sur les inventions déposées. Entre parenthèses, c'est assez drôle de voir ce qu'il note dans ce premier audit. Il dit que la tenue du vestiaire est négligée, etc. Son emploi du temps lui permet néanmoins de se pencher sur un certain nombre de questions de physique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Albert Einstein a toujours été, je vous ai dit tout à l'heure, un esprit curieux, mais aussi un esprit méditatif. Il a passé de très très longues heures à réfléchir, à méditer, à laisser sa pensée vagabonder. Et ça, c'est peut-être le secret des grandes découvertes qu'il va faire.
Thank you.
sur Europe 1, un extrait de la symphonie numéro 8 de Dvorak. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le physicien Albert Einstein et sa théorie de la relativité.
Alors, on en est pour l'instant à ce qu'on appelle la relativité restreinte. Vous allez assez vite comprendre pourquoi. Ça apparaît toujours des termes un peu complexes. Une fois qu'on voit à quoi ça fait référence, bon, finalement, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Alors, ce sont les fameux 6 articles dont je vous parlais tout à l'heure qui paraissent en mars 1905 dans les annales de la physique allemande. Sur la nature de la lumière, il donne l'interprétation quantique de l'effet photoélectrique. Il y introduit l'idée que l'énergie a une structure granulaire et quantifiée. Alors là, je pense qu'on a perdu à peu près tout le monde. Je vais essayer d'entrer dans le détail. D'abord, ce tout premier article s'intéresse à cette dimension corpusculaire ou ondulatoire de la lumière. Alors, je vais poser tout à l'heure la question, évidemment, à Alain Siroux, mais il faudra qu'on y revienne, bien entendu. C'est-à-dire qu'on sait que la lumière a cette dimension ondulatoire et que on fait intervenir les nombres entiers dans tous les calculs relatifs à la lumière. Donc, bon, jusque-là, on peut comprendre qu'il s'agit d'une onde, mais en même temps, cette lumière, via les photons, mais ça, on ne le sait pas encore, a une dimension corpusculaire, une dimension granulaire, si vous voulez. Alors, il va falloir réussir à réunir les deux. Bon, ça, c'est le premier article d'Einstein. Les deux autres articles paraissent en avril et en mai. Le premier sur le dénombrement des atomes et des molécules dans un volume donné. Alors là, il y a toute une thèse, bien entendu. Et puis, le deuxième article s'intéresse au mouvement brownien, c'est-à-dire à une manifestation macroscopique de l'existence des atomes. Parce que ces atomes, on en parle beaucoup, on les a identifiés à l'époque depuis un certain temps, mais on est incapable de les voir, bien entendu. Donc il faut un certain nombre de manifestations pour les appréhender, si je puis dire. Le quatrième article, ça c'est le plus connu évidemment puisqu'il est considéré comme le texte fondateur de la relativité. On est là fin juin 1905, ça s'appelle, le titre de l'article c'est « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement ». Et là, Einstein apporte la solution pour concilier ces deux hypothèses. Il part de deux principes, la vitesse de la lumière est constante dans le vide, quelle que soit la source, et puis les lois physiques de la relativité s'appliquent de la même façon dans un milieu constant, sans accélération ni changement de direction. Ce qui veut dire que pour Einstein, l'espace et le temps sont relatifs à chacun des repères des observateurs. C'est pour ça qu'on avait cette espèce d'incohérence entre la relativité, le système relatif dont je vous parlais sur les modèles macro, et puis par ailleurs le caractère quasiment universel du mouvement de la lumière. Eh bien, Einstein, en relativisant l'ensemble en quelque sorte, est capable de donner une explication. Ça, c'est son quatrième article, c'est le plus important. Alors, 3 mois après paraîtra un cinquième article, c'est là qu'on va trouver la fameuse formule E=mc², vous savez, qui permet de traduire une équivalence entre la masse et l'énergie. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Et puis, le sixième article, le dernier, qui paraît en 1905, toujours sur le mouvement brownien. Alors, Einstein se dit avec tout ça, en apportant autant d'éléments, en révolutionnant à ce degré-là la conception qu'on peut se faire, notamment de la lumière et de sa vitesse et de sa relativité, je vais faire parler de moi. Eh bien, pas du tout. C'est un bide total, si je puis me permettre. Sa sœur Maya Einstein parle d'un silence glacial. Il s'imaginait, Einstein, qu'il allait faire un effet terrible. Eh bien, pas du tout. Il est même complètement déçu, il faut bien le dire. Il va devoir même attendre quelques mois avant de recevoir un courrier du professeur Planck, l'homme de la théorie des quantas, vous savez, qui demande des éclaircissements sur un certain nombre de points qu'il juge obscurs. Ces articles ont été lus. Voilà, au moins, ça, il en a la confirmation. Mais pour autant, ils ne sont pas encore vraiment discutés. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'Einstein était d'un naturel méditatif. C'est important de comprendre comment il est arrivé jusque-là. « Je suis juste passionnément curieux », dira-t-il plus tard. On le sait grâce notamment à la correspondance qu'il a échangée avec sa future épouse Mileva Maric et avec son ami Michele Besso. On sait que tout vient de cette capacité qu'il a à s'abstraire, à réfléchir quasiment dans le vide, pour le coup. « Mes cogitations sur le rayonnement commencent à reposer sur des bases un peu plus solides », écrit-il à Mileva en 1899. Et un petit peu plus tard, il dit « Je suis de plus en plus convaincu que l'électrodynamique des corps en mouvement, telle qu'elle se présente actuellement, ne correspond pas à la réalité et qu'il doit être possible de la présenter d'une façon plus simple. Donc, vous voyez, on sent ses tâtonnements, on sent son intuition qui est en train de s'approcher de la réalité. En septembre 99, il écrit « Il m'est venu une idée intéressante pour étudier quelle influence le mouvement relatif des corps par rapport à l'éther lumineux peut exercer sur la vitesse de propagation de la lumière dans les corps transparents. J'ai pensé à une théorie. » Vous voyez que, pas à pas, on y arrive petit à petit à cette théorie. Alors, il y a d'autres problèmes que se pose Einstein. J'y viendrai peut-être tout à l'heure plus tôt avec Alain Siroux. En attendant, dans la vie de tous les jours, Einstein galère, si vous me passez l'expression. Il n'a pas d'emploi fixe, il n'est pas du tout reconnu. Et c'est certainement le temps libre que tout ça lui procure qui lui permet d'avancer justement dans ses fameuses cogitations. À la fin de 1901, il écrit à Mileva « Il m'est venu une autre idée, d'une grande importance scientifique sur les forces moléculaires. » Et dans la même lettre, un peu plus loin, « Je travaille d'arrache-pied à une électrodynamique des corps en mouvement qui promet de devenir un article capital et qui a maintenant l'intention d'étudier ce que Lorentz et Drude ont décrit sur le sujet. » Ah, donc, on progresse d'une certaine manière. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'Einstein s'est marié en 1902, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un mariage entre deux personnalités très versées dans les sciences. Hein. Et il semblerait que le jeune couple parle beaucoup de physique et même de philosophie, non seulement en tête-à-tête, mais aussi lorsqu'ils invitent des amis. On se dit qu'il ne faisait peut-être pas toujours bon être invité à la table d'Einstein.
Bel après-midi sur Europe 1, vous écoutez au cœur de l'histoire et nous attendons vos messages, vos questions par mail europe1.fr via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Et puis il y a la page Facebook de l'émission au cœur de l'histoire à nouveau dans un instant sur Europe 1. Et vous continuerez, Franck Ferrand, de nous parler d'Albert Einstein et de la théorie de la relativité.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Albert Einstein est au cœur de l'histoire. Vous nous parlez, Franck Ferrand, de l'élaboration de sa théorie de la relativité.
Il a un mal fou à se faire reconnaître, cet Einstein. Vous savez, en 1907, il voudrait devenir maître de conférence, seulement on lui oppose un refus, tout simple. Alors il tente sa chance l'année suivante, en février 1908. Là, il est quand même maître de conférence à l'université de Berne, mais c'est pas grand-chose. Il lui faudrait un vrai poste, quelque chose d'un peu rémunérateur. Et là, l'occasion se présente enfin en 1909 à l'université de Zurich. Il devient professeur adjoint de physique théorique. Il sera élu donc à 30 ans, le 7 mai 1909, avant d'être nommé professeur au Polytechnicum en février 1912. On a envie de dire, ouf, ça y est, cette fois. Et ça va lui permettre, bien sûr, d'acquérir un certain rayonnement, un certain statut qui lui permet de parler quasiment d'égal à égal avec Lorentz, avec Max Planck, justement, avec Henri Poincaré, sur lequel on reviendra tout à l'heure, avec Marie Curie, Paul Langevin, Jean Perrin, Rutherford, etc., etc., bien sûr. Il travaille notamment avec un autre professeur au Polytechnicum qui s'appelle Marcel Grossmann, mathématicien dans la géométrie différentielle. Voilà ce que lui écrit Einstein dans une lettre d'octobre 1912. « Je m'occupe exclusivement du problème, la gravitation, et je crois maintenant que je surmonterai toutes les difficultés avec l'aide d'un mathématicien d'ici. Il y a au moins une chose certaine, c'est que je n'avais jamais travaillé aussi dur de ma vie. À côté de ce problème, la première théorie de la relativité est un jeu d'enfant. » Cette histoire de la gravitation, il faudra qu'on y vienne là aussi tout à l'heure. C'est ce contre quoi bute la théorie dans son ensemble. Einstein accepte néanmoins de rentrer dans le rang d'une certaine manière. Il y a une petite vie de famille qui ne va pas durer très longtemps puisque très vite le couple a de gros problèmes et Albert et Mileva vont se séparer. Mileva retourne à Zurich avec les enfants et Einstein, si je puis dire, se sent d'autant plus libre pour poursuivre ses travaux. C'est intéressant de voir que toute la vie de cet homme finalement est une sorte de lutte contre ce qui le retient dans la matière, c'est le cas de dire, et l'empêche d'avancer dans ses propres recherches. Et finalement, il va élaborer une théorie concrète. Alors, il reprend ses articles de 1905, bien entendu, mais seulement, il a cette idée tout à fait essentielle qui dit que concrètement, la masse déforme une localité de l'espace. C'est-à-dire que tout corps qui approche d'une masse est affecté par la déformation qu'elle provoque. Voilà, c'est difficile à visualiser, bien entendu, mais c'est ça qui va être à l'origine de cette théorie de la relativité générale, qui sera publiée certes en 1916, mais qui voit le jour en novembre 1915. Voilà pourquoi nous disions tout à l'heure, cher Omblin, que l'on s'apprête à célébrer le centenaire de la relativité générale, parce que c'est à ce moment-là, c'est à la fin de l'année 1915 que cette théorie a vu le jour. Alors, Einstein va la publier, cette théorie. Il devient là vraiment une personnalité célèbre à partir de ce moment-là. Il a toutes sortes de nominations, tous plus brillantes les unes que les autres. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il convainque tous les physiciens. La plupart se disent « Oh, ce type est un philosophe. Il fait pas partie de la bande. Ça n'est pas un physicien, c'est un philosophe. C'est un homme qui a des visions sur les choses. Et il faudra attendre la célèbre éclipse de 1919 dont nous parlions avec Alain Sirou il y a quelques semaines de cela, et les travaux de l'astronome britannique Eddington, pour que les conclusions d'Einstein soient confirmées expérimentalement. Et ça va donner, bien entendu, à sa théorie une force, un poids tout à fait extraordinaire. Ce qui ne faisait pas plaisir à Einstein, du reste. Il disait « L'importance de la théorie de la relativité générale n'est sûrement pas à rechercher dans la confirmation expérimentale de certains effets très faibles, mais bien plutôt dans la simplicité de ses fondements et dans sa cohérence interne. » Autrement dit, ne cherchez pas à regarder si ma théorie s'applique dans les faits, puisqu'elle est beaucoup trop complexe pour que les effets soient visibles. Essayez de voir simplement si elle est cohérente, si elle est simple et si elle fonctionne théoriquement. Vous avouerez que c'est une drôle de manière de se défendre, et on peut comprendre que nombreux aient été les contradicteurs et ceux qui refusaient de suivre Einstein. D'ailleurs, vous savez, il y a cette anecdote incroyable à la fin d'une conférence justement de Eddington. Eddington était en train de parler de tout ça, de cette théorie, etc. Il y a quelqu'un qui s'approche et qui lui dit « Sir, vous devez être l'une des trois personnes au monde capables de comprendre la théorie de la relativité générale. » Et Eddington a réfléchi une seconde, il a dit « Trois personnes, oui, je me demande bien qui est la troisième. » La troisième, évidemment, c'était Alain Sirou, ça tombe bien, il est avec nous dans ce studio, il va répondre à toutes les questions que nous nous posons.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Cette année, nous célébrons le centenaire de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Vous recevez Franck Ferrand, le consultant scientifique d'Europe 1 et directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, Alain Sirou.
Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Franck, bonjour.
Merci beaucoup d'être ici pour essayer d'éclairer notre lanterne. Alors, je ne sais plus, c'est Sandra qui me dit « Non, rassurez-vous, nous ne lâchons rien, on s'accroche pour comprendre. » Mais c'est quand même très complexe cette histoire. Alors, la relativité en soi, disons-le, ça c'est simple. En revanche, ça tout le monde peut le comprendre. Ça remonte à Newton, ça fait encore partie de ce qu'on est capable d'admettre.
Ça remonte à Galilée.
À Galilée, pardon.
C'est assez marrant parce qu'en fait, pour bien comprendre Einstein, il faut rajouter deux termes à l'équation relativité. Il y a d'un côté Galilée et puis de l'autre côté Newton. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, c'est à l'origine même de la science. Qu'est-ce que fait la science avec Galilée? Elle questionne le monde. Qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce que c'est que l'espace?
C'est
des grandes questions. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement? Pourquoi les choses sont comme elles sont et pas autrement? Donc, dès Galilée, finalement, se pose ce qu'on appelle le principe de relativité. Et Galilée, vous l'avez dit, hein, c'est quelque chose qui, déjà sur un bateau, pour un observateur par rapport à quelqu'un qui reste sur le quai, montre que si vous laissez tomber une balle sur le bateau en mouvement, eh bien, pour la personne qui est sur le bateau, elle tombe tout droit comme pour la personne qui est sur le quai. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un mouvement, comme disait Galilée, c'est comme rien. C'est comme si ça n'existe pas. Ça veut dire que chaque observateur, finalement, est, entre guillemets, c'est propriétaire de l'espace dans lequel il évolue. Et les lois de la physique s'appliquent pour chaque observateur là où ils sont. Et en fait, trouver des différences, c'est finalement uniquement lorsqu'on compare les observateurs les uns aux autres dans un mouvement qu'on va appeler cette fois-ci relatif. Donc le mot relativité vient de... Finalement, la seule différence entre les mouvements, c'est entre les observateurs eux-mêmes. Voilà, mais les lois de la physique, elles, s'appliquent partout, tout le temps, pour tout le monde. Bon. Ça, c'est vraiment important.
Bon, ça, jusque-là, j'ai envie de dire, tout le monde comprend.
Alors, après arrive Newton.
Eh ben oui.
Et Newton...
Ça se corse, là, déjà, attention.
Alors, Newton, c'est quelqu'un qui s'interroge sur vraiment des très grands problèmes qui sont liées au fait que finalement ils regardent le soleil, les planètes, se posent la question de des mouvements. Puis bon, on a la caricature, hein, vous savez, vous connaissez Gottlieb, avec un Newton qui est sous le pommier,
sous son pommier,
et puis qui voit tomber la pomme sur sa tête et qui regarde la Lune en se disant mais pourquoi est-ce que la Lune ne tombe pas alors que la pomme tombe. Et là, on entre dans une description mathématique du monde qui fait appel à ce qu'on appelle la gravitation. Et ce que décrit Newton, finalement, c'est un cadre aux physiciens qui comporte un espace, ce qu'il appelle un espace absolu, qui comporte aussi, je dirais, du temps, un temps qui s'exerce partout, partout à tout endroit, donc un temps absolu aussi. Et puis, il découvre, et ça c'est l'invention de Newton qui est extraordinaire, une relation entre les corps à distance, et qu'on appelle la gravitation. Et cette gravitation, elle est extraordinaire parce que elle permet de comprendre que la Lune, si elle tourne autour de la Terre, c'est parce qu'en fait, elle a une relation avec cette Terre qui l'attire. Mais comme elle est en mouvement, alors elle tombe tout le temps sur la Terre. Mais le mouvement est tellement important que finalement, cette chute continue fait qu'elle tourne autour de la Terre. Donc, il y a un fil invisible, entre guillemets, chez Newton qui relie la Terre et la Lune. Et ça s'appelle la théorie de la gravitation. Et ça marche très bien. Ça marche d'autant plus parfaitement que, je dirais, en 1969, si l'homme a débarqué sur la Lune, c'est grâce aux équations de Newton. Donc, il n'y a pas de contradiction. Le monde est plutôt bien dressé. Sauf qu'arrive quelque chose de nouveau. Et ça s'appelle l'électromagnétisme. C'est-à-dire l'interrogation des physiciens
sur la lumière.
Sur la lumière. Et en particulier, des observations qui montrent une contradiction qui est fort troublante et fort gênante. C'est-à-dire que des physiciens vont essayer de mesurer finalement le mouvement de la Terre dans l'espace en observant la lumière. Et vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors je vous donne une image. Si vous me lancez une balle, Franck, et moi je suis immobile, vous aussi, vous me lancez une balle à 10 km/h, c'est très simple, la balle va à 10 km/h. Mais si vous bougez vers moi en me lançant la balle à 10 km/h, alors on va, je dirais, soustraire le mouvement qui est le mouvement que vous avez, vous. La lumière, ça se passe pas comme ça.
Et non.
Quelle que soit la direction dans laquelle on la mesure, que ça soit la direction, entre guillemets, vers laquelle elle s'échappe ou la direction d'où elle vient, la vitesse est la même. Et ça rentre en contradiction parfaite avec justement ce que et Galilée et Newton ont observé dans un monde, je dirais, intuitif, du quotidien, de la nature. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a deux observations qui sont vraiment validées à chaque fois, mais qui sont en contradiction.
Antinomiques en apparence.
Antinomique.
Alors il faut arriver à les résoudre.
Voilà, il faut les résoudre.
Et c'est ce qu'essaie de faire Einstein dès ses premiers articles là de 1905.
Alors, il y a, je dirais, la relativité. On dit restreinte et ensuite générale. C'est finalement un Big Bang à deux coups. Le premier coup, c'est 1905, vous l'avez dit. Et c'est ce qu'on appelle l'année miraculeuse, c'est Einstein, où, je dirais, les articles qu'il publie interrogent à la fois l'infiniment petit, c'est-à-dire la notion même d'atomes, de corpuscules, de grains de lumière, l'effet photoélectrique pour lequel il aura le prix Nobel est quelque chose qui interroge Einstein. Donc, il s'intéresse à l'infiniment petit. Et puis, à la structure même de l'espace, du temps, de la lumière et je dirais des mouvements.
Donc là,
et
là on est dans l'infiniment grand. Voilà.
Dans l'infiniment grand. Et c'est, je dirais, en 1905 qu'il va mettre en place les briques de la future maison de la physique qui va bouleverser, renverser, balayer celle de Newton, pour aboutir en 1915 à une construction qui est une construction où la maison n'a plus des murs rigides. Les murs sont en mouvement.
Ça se déplace, ça se déforme.
Ça se déforme.
En fait, ce qu'il est en train de faire dès 1905, c'est redessiner notre paysage, si je puis dire. Redessiner notre espace mental avant tout, non?
Absolument. Et c'est d'autant plus difficile à comprendre, même encore aujourd'hui, qu'il est parfois contre-intuitif. On a le sentiment, parce que nous vivons dans un monde qui ne nous paraît pas si petit que ça, qu'on vit tous à la même heure. Pourtant, c'est faux. On a le sentiment que, en marchant tout droit dans cette pièce, bah, finalement, le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, ça va être la ligne droite. Ben, c'est pas vrai. Et puis, il va multiplier finalement les approches contre-intuitives. Et Einstein est une personne qui transgresse. Il transgresse parce que, vous savez, pour inventer des nouvelles choses, il faut sortir du traditionnel, il faut sortir du classique. Si je ne comprends pas ce qui se passe autour de la table, je vais devoir grimper au plafond, aller essayer d'avoir une autre vision du monde et accepter que ce que je considère comme étant une référence, quelque chose d'absolu, qui ne bouge pas, c'est quelque chose qui peut être transformé parce qu'on change les cadres. Et il va changer les cadres, il va les démonter. Alors, en sachant que c'est un travail en continu.
Essayons de voir en quelques mots, comment Einstein voit le nouveau monde, si je puis dire. La lumière, d'abord.
Alors, la lumière, c'est dans le vide, le nouvel absolu de l'univers. C'est-à-dire que...
Ça change tout quand même.
Ce n'est pas une barrière, c'est une limite. Elle va à une vitesse qui est la même partout,
tout le temps. Et que rien d'autre ne peut atteindre.
Et qu'elle est constante. Dans un lieu donné. Dans le vide, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qui est... qui permet aussi... De considérer qu'elle est indépendante de celui qui la mesure, quel que soit l'endroit, 300 000 km par seconde à peu près, hein, c'est, je dirais, une loi, une constante, une limite.
La matière, elle, alors ça, c'est là que justement la matière, elle n'est pas tout à fait...
La matière, elle est très particulière, parce qu'il y a cette beauté qui est E égale MC2, on voit bien, la matière, la masse, donc la matière, est en correspondance avec l'énergie par quelque chose qui paraît incroyable, c'est la vitesse de la lumière au carré. D'abord, il faut saisir, même si on ne connaît pas les mathématiques ou la physique, cette beauté intrinsèque de la simplicité. E égale MC2, ça paraît vachement simple.
C'est tout simple, oui, voilà.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette table, ça veut dire que vous, moi, vous les auditeurs, on peut vous convertir en énergie.
En équation, oui, voilà,
en énergie. Vous êtes autant, vous êtes une manifestation de l'énergie. Donc il y a une correspondance entre les deux, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce que montre Einstein, c'est que cette matière, eh bien, elle courbe l'espace. Alors qu'est-ce que c'est que l'espace? L'espace, on va se dire, l'espace du studio, c'est le volume dans lequel je suis. Bon, c'est pas suffisant pour décrire ce qu'est l'espace. Pour Newton, l'espace, c'est l'environnement statique dans lequel se déplacent des objets, des planètes, des étoiles, des galaxies. Ce que montre Einstein, c'est une autre vision des choses. C'est que finalement, l'espace peut être vu, je dirais, permettez-moi l'expression, comme un tissu élastique qui se déforme en fonction de la présence de masse. Vous avez une nappe élastique en plusieurs dimensions. On a du mal à l'imaginer.
Oh, puis
vous avez vous avez une boule de pétanque, et cette boule de pétanque va, de par sa masse, déformer l'espace parce qu'elle a un poids, une masse en quelque sorte. Et ça doit pouvoir être vérifié, ça doit pouvoir être vu, parce que le soleil dans l'espace ou la lune dans l'espace, eh bien, doit pouvoir dévier les rayons qui arrivent de l'autre côté. Et c'est ce que le Time Magazine, quand il parlera d'Einstein, New York Times dira, c'est que Einstein a découvert que les rayons lumineux vont de travers, c'est-à-dire qu'ils sont déformés par l'espace.
Et alors, vous parliez d'approche contre-intuitive. Ce qu'il y a de plus opposé à la perception naturelle qu'on peut avoir des choses, c'est la conception qu'a Einstein du temps. Alors là, c'est compliqué.
Ça, c'est la dernière touche extrêmement importante. C'est dans cette équation qui va servir à bâtir, je dirais, le nouveau monde, c'est que le temps ne s'écoule pas de la même façon partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps absolu, il n'y a pas de temps référent. Nous transportons tous avec nous nos propres horloges. Alors ça se voit pas, parce qu'on est tous dans le même studio, sur la même planète, sauf que quand on est en mouvement. Si vous partez, vous, Franck, visiter une planète extrasolaire à quelques années-lumière d'ici, à la vitesse de la lumière, et que moi je reste dans le studio, eh bien vous allez voyager à une vitesse, je dirais, maximale, proche de celle de la lumière, 300 000 km à la seconde. Vous allez mettre du temps pour y arriver, vous allez mettre du temps pour revenir. Mais quand on se retrouvera tous les deux, eh bien moi j'aurai vieilli beaucoup plus que vous, parce que moi je n'aurais pas été en mouvement. C'est-à-dire que je n'aurais pas transporté la même horloge que vous. Et ça, on va le vérifier en 1971, quand on va transporter à bord des avions une horloge atomique qui sera comparée à une horloge restée au sol. Et on verra bien que le temps...
Il y a une infinitésimale différence, mais enfin elle existe en tout cas.
Sauf que dans la dimension spatio-temporelle, eh bien, et là j'ai utilisé le mot espace et temps, c'est-à-dire qu'il va lier les deux dans une espèce de texture extraordinaire où le temps et l'espace sont fonction de la présence des masses, eh bien, cette notion de temps et d'espace va s'associer pour disparaître et se mélangée, je dirais, à la structure de la matière dans l'espace.
Bon, alors je laisse à nos auditeurs le temps de prendre une petite aspirine. On va redescendre sur Terre pour parler non plus des théories d'Albert Einstein, mais de sa vie tout simplement. Et là, vous allez voir que les questions des auditeurs sont très nombreuses. Un petit trait d'humour, si vous voulez. Je vous propose d'écouter ce que disait Fernand Reynaud. Vous savez, tout ça a été fait pour.
Si l'atome est la plus petite partie d'un corps simple et la molécule la plus petite partie d'un corps composé, comment se fait-il que l'on puisse désintégrer un atome? Non pas dans une pression atmosphérique, ne nous leurrons pas, mais dans une pression hydraulique. Qui dit hydraulique dit H2O, deux parties d'hydrogène, une partie d'oxygène. Ah, Einstein a dit que lorsque nous avons descendant la théorie de Joliot-Curie, au centimètre...
T'en as pour longtemps à me saouler avec tes salades. Hein? Qu'est-ce que je sache, moi, les atomes, les molécules, comment ça fonctionne? Hein? J'ai déjà du mal à rouler en vélo, moi, là. Qu'est-ce que je sache, moi, les atomes, les molécules, comment ça fonctionne?
Lorsque Einstein a dit...
Fous-moi la paix avec Einstein! Je veux pas d'histoire avec les voisins.
Fernand Reynaud sur Europe 1, on écoutait cet étudié pour... Nous, on a envie encore de parler d'Einstein. Et on vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, avec votre invité Alain Sirou sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Albert Einstein est au cœur de l'histoire. Votre invité Franck Ferrand, le consultant scientifique d'Europe 1, Alain Sirou, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Et les auditeurs passionnés posent de nombreuses questions.
Alors,
Franck,
pour tout vous dire, Alain Sirou est venu avec le numéro de mai de Ciel et Espace. Alors j'ai hésité à vous en parler puisqu'on est quand même en juin au passage. Donc en mai, on parlait du climat, la vraie part des astres, etc. De quoi parle-t-on dans le numéro de juin, Alain Sirou?
Des exoplanètes et en particulier la découverte, entre guillemets, pas encore confirmée, de ce qu'autour de la première étoile, du premier système stellaire le plus proche de la Terre, qu'on appelle Proxima du Centaure, il pourrait exister l'équivalent d'une Terre. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que, souvenez-vous du film de science-fiction Pandora, ça se passait autour de cette étoile.
Et puis j'imagine que vous nous montrez, comme d'habitude, le ciel de cet été.
Absolument.
Hein, avec un moyen de se repérer parmi toutes nos galaxies. Une chose n'est pas relative aujourd'hui, nous dit Stéphanie, c'est le plaisir d'entendre Alain Sirou parler de science, même pour l'historienne que je suis. Vous voyez que on arrive à suivre, d'ailleurs, c'est Sandra qui dit « Je prends des notes, je me régale, même si je ne saisis pas tout ». Bon, alors, revenons peut-être à la dimension biographique d'Einstein. C'est Étienne qui nous demande si Einstein n'aurait pas plagié un peu les travaux de Poincaré, de Langevin, etc. Ça a été beaucoup dit, et moi-même j'avais consacré une émission d'ailleurs à cette histoire entre Poincaré et Einstein.
Je pense que
Poincaré, le frère, hein, Henri Poincaré.
Je pense que les historiens des sciences, effectivement, discutent de ces questions-là. Ce qui est sûr, c'est qu'Einstein n'est pas indépendant de ce qui se faisait à l'époque. Évidemment, c'est pas parce qu'il n'est pas dans la communauté officielle des physiciens de l'époque qu'il ne se tient pas au courant. Et c'est vrai que Poincaré, en particulier, était très proche de la solution. Mais ce qui caractérise Einstein...
La transgression dont vous parliez, alors, c'est cette capacité à aller plus loin, en fait.
C'est cette transgression, et surtout ce qui reste le mystère le plus profond, c'est finalement cette année miraculeuse en particulier, c'est comment tout d'un coup tout ça va se débloquer. Et Einstein n'est pas dans un contexte favorable par rapport à ses collègues d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'est pas, comme vous l'avez dit, dans un laboratoire, dans une université. Il n'est pas professeur avec d'autres professeurs. Il est au brevet à Berne. Il dispose de beaucoup de temps pour réfléchir. Et il est entouré de personnes avec lesquelles il discute beaucoup. Vous avez parlé de son ami Bessot. On a parlé aussi du mathématicien Grossmann qui lui apporte des solutions mathématiques. C'est pas un très bon mathématicien, Einstein, de sa femme, Mileva. Et Mileva, c'est une relation qui est très particulière, parce que vous l'avez dit, il est jeune, Einstein, et puis il transgresse sa vie.
Sa femme semble l'avoir plus qu'aidé, nous dit Patrick.
Oui, parce qu'en fait, c'est une égale en science avec Einstein, et il mélange l'utile et l'agréable. Voilà. C'est-à-dire que même si elle n'est pas jolie, qu'elle boite, que sa famille en veut pas, enfin qu'elle est serbe et que ça pose des tas de problèmes, il n'en a rien à faire.
Je salue toutes nos auditrices serbes, au passage.
Absolument. Il se moque de ce qu'on pense de lui, de ce que pense sa famille. Et avec Mileva, il est prêt à franchir franchir toutes les frontières. Sauf qu'à un moment donné, je dirais, il utilise Mileva, parce que Einstein est quelqu'un d'extrêmement égoïste, quelqu'un qui est totalement passionné par la physique et qui se moque, j'allais dire, de la personne qui est à côté de lui. Donc à un moment donné, ça va casser parce que Mileva est quelqu'un qui est une personnalité extrêmement forte et parce qu'Einstein va fabriquer autour de lui un petit groupe d'amis, pompeusement d'ailleurs appelé l'Académie Olympia, avec qui il discute de Poincaré, de Kant, et il parle jusqu'à point d'heure de science. Et c'est avec eux qu'il teste ses idées.
Alors, il y a tellement de questions, c'est une véritable avalanche. Comme quoi, vous voyez, quand on parle de science, ça passionne nos auditeurs, il y en a qui tombent de partout de ces questions. On me demande aussi, pour revenir à la dimension biographique d'un personnage quand même en demi-teinte, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fille qu'il n'aurait pas reconnue? Donc, j'en ai dit un mot tout à l'heure au passage. Mais...
En fait, il aurait une petite fille. Mm-hmm. Sa famille Leva a été enceinte, elle a disparu.
La petite fille a disparu.
La petite fille a disparu. Mileva est retournée dans sa famille et lorsqu'elle est revenue, il n'y avait plus de petite fille et on n'en a pas su plus. Donc c'est extrêmement trouble. Les biographes d'Einstein expliquent que vraisemblablement il a eu une petite fille, mais il n'était pas marié. C'était pas simple. Donc il aurait finalement fait l'impasse. Einstein est quelqu'un qui tire un trait sur les choses qui l'embêtent et il va tirer un trait sur Mileva. Pratiquement au moment du mariage. Il reconnaîtra plus tard qu'il s'est marié à contre-cœur, parce qu'il le fallait, parce qu'il avait des enfants. Mais déjà, il draguait sa cousine, qui était beaucoup plus... Elsa, qui sera sa seconde femme.
Qui sera sa femme, d'ailleurs.
Qui était beaucoup plus, je dirais, arrangeante, parce que elle lui repassait ses vêtements, elle l'entretenait, elle faisait un petit peu la conversation badine, elle le nourrissait quand il fallait, et ça lui suffisait parfaitement.
Il avait un côté farceur, le personnage était quand même assez drôle, par ailleurs.
Il était très aimable envers la société, mais au bout du compte... ce qui l'intéressait seulement et uniquement, c'était la physique. Ses seuls interlocuteurs, ses seuls correspondants et ses seuls, je dirais, patients, c'était la physique. Et il a noyé tout ça dans une grande capacité à pouvoir faire des aphorismes.
Et une physique très philosophique, c'est un de nos auditeurs. Alors je ne sais plus, parce que là j'en ai trop, mais un de nos auditeurs nous demande si cette théorie de la relativité en physique a pu avoir des conséquences sur le relativisme en philosophie. Est-ce que la manière de penser a été modifiée par les travaux d'Einstein et par les découvertes qu'il a pu faire?
Oui, sauf qu'à mon avis, il ne faut pas parler de relativité, parce que là, on confondrait vraiment ce que les physiciens appellent la relativité, qu'on expliquait comme étant finalement une affaire de mouvement, avec la conséquence de la vision d'Einstein. La conséquence de la vision d'Einstein, c'est de faire naître le monde dans lequel nous existons, et en particulier ce qu'on appelle la cosmologie relativiste, parce que des déductions d'Einstein vont sortir... Les trous noirs, l'univers en expansion, la théorie du Big Bang, l'idée que nous vivons dans un monde qui n'est pas statique, qui est en mouvement et qui a une histoire. Et je dirais que on trouve d'ailleurs chez Einstein, sur certains points, des choses qui sont extrêmement étonnantes, en particulier le temps, la notion du temps, qui dans la littérature et la philosophie est une interrogation profonde, on le sait depuis très longtemps. À la mort de son ami Bezos, Einstein écrit cette chose extraordinaire à sa femme, il dit « Voilà, en parlant de Bezos, qu'il m'a précédé de peu en quittant ce monde étrange. » Mais vous savez, ça signifie rien pour nous, physiciens croyants. Cette séparation entre passé, présent et avenir ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Donc là, on est vraiment dans l'interrogation métaphysique, religieuse du monde, en conséquence des découvertes d'un temps qui devient élastique, voire inexistant.
30 secondes, Alain. Est-ce qu'un siècle plus tard, tous ces travaux d'Einstein sont encore d'actualité? On n'est pas en train de sortir du modèle d'Einstein? On est toujours dans ce cadre-là?
On est en plein dans ce cadre-là. C'est le monde dans lequel nous vivons. il n'est pas exempt d'interrogations et peut-être de failles. On le teste en continu, ça fonctionne. Et je dirais, Newton a tenu 2 ans. Combien de temps Einstein tiendra? Et surtout, celui qui arrivera devra englober Einstein, parce que cette vision du monde extrêmement opérant nous a ouvert les portes extraordinaires d'un univers à 13 milliards d'années lumière dans l'espace et dans le temps, et posé de nouvelles questions. On a poussé une porte avec Einstein, on en a trouvé 10 derrière.
Merci beaucoup, cher Alain Siroux. Je rappelle que le numéro de juin de la revue Ciel et Espace porte comme titre principal sur la couverture « Le rêve d'une autre Terre à 4 années-lumière ». Merci.
Vous restez avec nous sur Europe 1. Vous répondrez dans un instant, Franck Ferrand, à la question d'Astrid sur les origines du Conseil des ministres.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est Astrid qui a envoyé un mail à l'équipe de Cœur de l'Histoire. Astrid voudrait savoir, Franck Ferrand, pourquoi le Conseil des ministres se tient traditionnellement le mercredi?
Alors, il n'y a pas de raison, soyons tout à fait honnêtes, il n'y a pas de raison secrète. Mais il y a une tradition, et cette tradition, elle remonte très loin, elle remonte dans l'ancienne France, à Louis XIV, essentiellement, même si on a déjà vu des conseils royaux se tenir le mercredi dans des règnes beaucoup plus anciens. C'est Louis XIV qui va institutionnaliser les choses. Vous savez, il a fondé, ou refondé d'ailleurs, pour être tout à fait exact, le fameux conseil d'en haut, qui siège dans la demeure royale, donc pendant très longtemps au château de Saint-Germain-en-Laye, puis de Versailles, enfin, etc. Et ce conseil auquel participent un certain nombre de spécialistes, si je puis dire, qu'on appelle les ministres d'État à partir de 1671, ce conseil siège le mercredi pour des raisons de pratique, parce que c'est un jour où il n'y a pas de grand office, où il n'y a pas de ce qu'on appelle les soirées d'appartement, c'est-à-dire de grandes réceptions, et où il n'y a pas de réception d'ambassadeurs. Donc c'était un jour où le roi était relativement disponible pour tenir lui-même ce conseil d'en haut. Vous savez qu'autrefois, sous l'ancienne France, il y avait des conseils qui s'occupaient de différents sujets, notamment le conseil des partis, enfin, etc. Je ne vais pas entrer dans tout ça. Petit à petit, on a donc, alors la tradition s'est admise, les gouvernements ont continué à le faire. Sous la Troisième, sous la Quatrième République, on tient déjà le Conseil des ministres le mercredi, mais avec un peu moins de régularité. Puis vous savez qu'à l'époque, le Conseil est présidé par le président du Conseil. On est dans un régime purement parlementaire. Avec la Cinquième République, en 1958, on renoue les wagons, si je puis dire, et c'est bien le chef de l'État qui préside le Conseil des ministres. Il le fait comme autrefois. Le mercredi, ça a lieu à l'Élysée, c'est-à-dire chez le président de la République. Alors, il peut aussi y avoir des conseils intergouvernementaux ou des conseils interministériels. Ça, ce sont des réunions qui obéissent à leurs propres règles. Ça nous entraînerait peut-être un petit peu loin. Et voici Marion Ruggieri. Bonjour Marion.
Bonjour Franck.